Bonjour et bienvenue dans Brasseur, saison 3, épisode 12, Château Perché ou comment vendre 10 000 pintes en une soirée.
10 000 pintes.
10 000 pintes, bravo, record
battu. Épisode The Doux.
Épisode The Doux de la saison 3, on se retrouve en compagnie de Pierre à nouveau.
Bah, il n'a pas bougé, toujours là.
Bah, oh, bonjour. C'est dingue qu'il est en deux semaines de temps qu'il nous ait visité à chaque fois.
Est-ce qu'il interviendra plus que la dernière fois?
C'est l'avenir nous le dira.
Voilà. En tout cas, il est là, il a un micro, il peut parler.
C'est vrai. Non, j'écoute en tout cas assidûment.
Toi, t'es pas venu au Château Perché, t'aurais pu.
C'est vrai.
T'aurais pu, peut-être l'année prochaine.
Mais qu'est-ce que le Château Perché, Benjamin?
Qu'est-ce que le Château Perché? Bah, on va le voir après le générique.
Attention à la bouche!
Monsieur va peut-être nous offrir un verre.
Je peux avoir de bière?
Bah, c'est pas ça.
Et vous buviez combien par jour?
Ça, je sais pas. Je compte pas. Mal 40.
Signorina. Et on se retrouve donc pour parler du nouveau record de Tipsy, 10 000 pintes en une soirée, quand même, bravo. Cet épisode fait suite directement au précédent, l'épisode 11,
exactement,
où on raconte vos premiers doubles brassins sur la PBC, double brassin sur lequel vous avez brassé 50 hectos destinés à être vendus justement au Château Perché.
Château Perché, qui était déjà commandé, et donc on a fait 3 bières différentes.
Je reviens peut-être un peu avant, au préalable, sur le Château Perché. Pourquoi le Château Perché? C'est un festival qui se passait normalement en Auvergne, chaque année dans un château différent. Et moi, je l'ai fait pour la première fois l'année dernière. Et donc, beaucoup axé vers des valeurs de partage, de respect, de la bière locale, des produits locaux, tout végétarien, machin, etc. Je pense que vous représentez un peu l'idée. Et cette année... Enfin, cette année, les billets, moi, je les ai pris à l'ouverture de la billetterie, donc en janvier ou en février. C'était pour la première fois, non pas en Auvergne, mais en Bourgogne. Et quand le nom est sorti, j'ai regardé le nom du château et j'ai dit à Robin, « Oh tiens, c'est marrant, j'ai l'impression qu'ils sont pas très loin de chez vous cette année. » Et Robin a dit, « Oh mais non, Bazoche, le château !» Je connais, oui, carrément.
Bien sûr.
Ils font du local, t'es chaud, ils ont des fournisseurs, vas-y, j'envoie un mail.
Alors là, c'est le début, donc le démarchage du festival. Ouais. Je pense que c'est grand 1, le démarchage. Il faut savoir qu'à partir du moment où j'ai appris ça, je les ai un peu harcelés. C'est-à-dire que donc toi, tu m'en avais parlé. C'est un festival que je connaissais de nom et que j'avais eu envie de faire plusieurs fois, mais un peu cher, pas forcément au bon moment à chaque fois et tout, mais ça faisait quand même assez longtemps.
Très sympathique, soit dit en passant, je recommande.
Ouais.
Faut être un peu ouvert d'esprit.
Mais, par exemple, le frère de Marie avait fait en l'édition de 2017, je crois, un truc comme ça. Enfin,
ouais. Genre, ça fait longtemps que ça existe. Hein,
moi, 2015, je dirais. Un truc comme ça,
ouais.
Et donc, ouais, ça fait longtemps que j'en avais entendu parler. Et je m'étais toujours dit, mais trop stylé le concept de faire un truc dans un château, une fête dans un château, trop bien.
Puis l'état d'esprit, enfin moi ce que j'ai, si je dois retenir, bon après on va pas parler que de ça, mais l'état d'esprit est vraiment très cool. Enfin,
ouais, c'est vraiment très cool, et donc j'avais vraiment envie d'aller à ce festival, et si je pouvais en plus bosser dessus, enfin trop bien quoi. Donc tu m'as prévenu du truc, j'ai commencé à contacter sur Facebook, puis ensuite j'ai trouvé un mail, j'ai envoyé des mails, j'ai essayé de chercher genre les gens qui bossaient dessus, donc je regardais, j'ai vraiment fait mon enquête sur Facebook, sur LinkedIn et tout. Ensuite je me suis dit bon bah j'ai pas de retour, mais je m'y étais pris vraiment à l'avance.
T'as probablement bien fait d'ailleurs.
Oui, mais du coup bah pas de retour, donc j'ai contacté le maire de Bazoche en lui disant voilà, j'ai appris qu'il y avait un festival qui s'organisait
ça,
chez vous.
C'était beau jeu ça.
Voilà, maire que Didier du coup connaissait, donc Didier qui est assez proche de la brasserie, via ses activités de patrimoine du Morvan, etc. Donc j'ai eu le contact, j'ai pu appeler le maire, on a discuté, je lui ai représenté mes bières, il connaissait un peu de nom Tipsy, il avait jamais goûté les bières, mais il savait, voilà.
Ça c'est une vraie implantation dans le Morvan. Quand tu commences à pouvoir passer par le maire en disant tiens le petit château perché, vous connaissez.
C'est cool de bah oui. D'être dans une campagne pour ça, pour tous ceux qui cherchent encore à où s'implanter. Moi je recommande la campagne, c'est quand même très bien parce que t'as une proximité avec les gens qui n'est pas celle d'une grande ville.
Après, Didier a le bras long aussi, j'ai l'impression.
Didier a le bras long, mais disons que les maires sont à portée de main.
Ouais. Oui, clairement.
Et sont très ouverts, surtout quand tu viens pour proposer un truc et tout. Et donc, en fait, le maire a appuyé le fait qu'il y avait une brasserie qui était chaude, etc., etc. Il se trouve, comme par hasard, que pour la première fois, Château-Perché avait envie de mettre de toute façon de la bière locale.
Ouais.
Donc, comme ils avaient déjà vu mes 15 mails, mes, mes différentes... Enfin, voilà, j'étais rentré par toutes les portes et toutes les fenêtres que j'ai vues. Donc, du coup, ils sont très vite revenus vers moi en me disant « Écoute, oui, on a vu tes mails, on a vu, on a entendu parler de toi. »
T'es même passé en hélicoptère au-dessus de Bazoches avec une grande banderole, je crois.
C'est ça. J'avais mis les moyens. Non, mais par contre, ouais, honnêtement, s'il y a un truc que je peux reconseiller, c'est si vous voulez vraiment participer à quelque chose...
Faites du spam.
Faites un peu du spam, tout en étant gentil et en étant très courtois et en disant, voilà... je sais pas, je me souviens plus exactement de ce que j'envoyais dans les mails, mais dans mes mails de relance... J'essayais de pas spammer, j'essayais de chaque mail apporter un truc de nouveau, tu vois.
Ouais.
Notamment dans les nouveautés que j'apportais et qui je pense leur a vraiment plu, c'est que je leur ai dit j'imagine qu'il y aura beaucoup de volume, que je pourrais pas répondre à toutes leurs demandes et que du coup ça me dérangeait absolument pas d'être je voulais pas être l'unique brasseur, je voulais un petit coin où je pouvais vendre des bières. Au début j'avais même demandé à n'être présent que le dimanche et vendre des petits trucs, tu vois, des petites bouteilles, des petits machins et tout. Ensuite j'ai dit voilà, si jamais il y a moyen de faire des bières pour le festival, je pourrais vous faire des bières un peu sur mesure.
J'adorerais être la personne qui est derrière la boîte mail et qui voit le mec, genre, premier mec, genre, bonjour, je suis pas loin, je veux bien vendre quelques bières. Bon, si vous voulez, je peux en vendre plus, hein, je peux vous faire 1000 litres. Bon, d'ailleurs, si vous voulez que je sois le fournisseur officiel du festival, je peux en faire plus aussi. Hein,
tous les non, jours, mais hein. J'ai jamais demandé à être le fournisseur officiel, j'ai toujours dit que ça serait en complément des bières industrielles. Parce que de toute façon, j'avais pas la capacité de le faire. Pour information, c'est un festival où il y avait environ 7000 personnes. Ouais. Entre 6800 et 7000 apparemment. Il y avait 6 bars dans le festival.
Comme dans les pneus du vélo de Pierre.
C'est ça. Et donc, bref, j'ai pas mal insisté. Je leur ai fait une bière, enfin 3 bières du coup, un peu spécialement pour l'événement, que j'ai proposé. Du coup, une blanche en grosse quantité.
Ouais.
Un peu inspiré de la cure, en plus légère, en un peu plus light pour rentrer dans les frais.
Ouais, et puis de toute façon, c'était pas le moment de tester des recettes complètement nouvelles non plus. On l'a vu dans l'épisode précédent, c'était bien
ouais,
de partir sur un truc
ouais,
que vous aviez
ouais,
déjà
ouais,
fait,
ouais.
Non ?
Ouais. Non, mais en soi, il
pas
fallait...
Non, mais c'est pas grave.
Non, il fallait rentrer dans les frais surtout, c'est ça qui
ouais.
était...
Ah bah ouais.
Je tiens à dire que Château-Perché nous a quand même laissé des marges correctes. Ils nous ont pas saigné, ils ont forcément demandé des marges pour le festival, donc des prix qui n'étaient absolument pas les prix classiques qu'on pratiquait, mais en même temps, quand tu commandes autant de quantité d'un coup,
tu peux négocier.
Mais je les ai trouvés très honnêtes dans leur démarche, j'ai trouvé ça vraiment génial qu'ils s'intéressent à une petite brasserie, qui plus est, les premiers rendez-vous, on était encore sur 150 litres, donc j'ai dit oui à ce contrat-là, avant même d'avoir le matos,
ouais.
Je savais que j'allais l'avoir. Hein. J'étais déjà en très bonne voie. On avait déjà payé, je crois, mais on n'avait pas encore reçu le matériel. Enfin, j'étais pas encore sûr à 100% que je pourrais le faire, mais c'était quand même en bonne voie. J'ai quand même eu beaucoup de chance là-dessus. Qu'il n'y ait pas eu de gros couacs, genre finalement les fermenteurs sont tous cassés et je peux pas le faire.
Ouais.
Après, je savais que j'étais la petite brasserie et que si jamais je pouvais pas livrer autant de bière qu'il fallait, ils se retournaient vers l'industriel et l'industriel allait.
Ça les aurait sûrement fait un peu chier hein, de pas proposer de bière locale, mais.
Oui, mais j'aurais proposé un truc quoi qu'il en soit, mais
ouais.
Peut-être pas autant.
Bon bah, j'ai 10 canettes sans étiquette qui traînent quelque part. Je sais plus ce que c'est, mais vous verrez.
Donc en tout cas, voilà, le fait d'avoir proposé les bières, 3 bières sur mesure, donc une blanche, somme toute assez classique, une Hoppy Pale Ale, un peu inspirée des bières type Brassy 2, Talus de Bonnetré, l'Idaho 7. Enfin, voilà, les Hoppy Pale Ale qu'on avait l'habitude de faire. Qui finalement s'est retrouvé, je trouve, hein, plus houblonné que l'IPA vendu officiellement.
Ah
enfin,
oui.
Avec une aromatique plus fraîche au final, et qu'on aurait presque pu vendre comme une IPA, mais pour moi ça reste une Hoppy Pale Ale, mais ça semblait plus houblonné que l'IPA. peut-être moins amer aussi, mais voilà. En tout cas, ils étaient ravis de cette bière-là. C'est la première qui s'est retrouvée en rupture de stock assez rapidement. Et la dernière, qui était une Berliner Weiss, j'ai trouvé ça très osé de leur part et très très cool, avec des fraises et de la rhubarbe.
Ouais. Et en fait, je pense que c'était un bon choix parce que, bon, petite parenthèse, mais moi je faisais ça avec des potes, le festival. Potes qui sont pas spécialement beer geeks, mais à qui j'avais déjà présenté Tipsy, qui avait déjà vu Robin plusieurs fois, et à qui j'avais dit, bah voilà, Robin il fait des bières, etc. Et je leur avais notamment servi une de tes Berliner, la...
Laquelle ?
Le Berliner ?
Non, pardon, la framboise.
Ok.
Je leur avais déjà donc servi de la sour, la framboise, et ils avaient grave kiffé. Okay. Je veux dire, sans être des beer geeks,
ouais.
Tous mes potes ont dit ah ouais c'est vrai, il y a de la sour fraise rhubarbe, je suis trop chaud. Et en fait rapidement, je sais pas si tu te souviens, ils ont tous dit ouais venez on va choper, parce qu'en plus il faut dire elle a été vendue que dans le corner Tipsy.
En fait donc il y avait 6 bars, tous les bars vendaient la bière blanche parce que c'est celle qui a été demandée en plus grosse quantité. Par contre la Hoppy Pale Ale, la blanche et la sour n'était vendue que dans un bar, enfin il y avait un bar spécial Tipsy.
Ouais,
qui vendait, ce qui était trop cool.
Ouais.
Genre,
oui, c'était très cool. Avec la grande banderole.
Ouais, voilà. Donc j'avais un bar pour moi, avec des bénévoles qui bossaient pour le bar Tipsy. Alors on pouvait boire du vin aussi dans ce bar-là, donc il n'y avait pas que mes bières, il y avait aussi du vin et il y avait, je crois, un peu de cidre. Que j'ai pas trop vu en vrai, donc je sais pas s'il est arrivé vite à rupture de stock ou quoi. Mais donc c'était quand même trop cool d'avoir un bar dédié à Tipsy, quoi.
Enfin, ouais, grave. Non, et puis je veux dire, c'est audacieux de leur part d'avoir fait d'avoir dit oui à une bière sour qui est, où c'est un peu plus risqué comme choix. Mais cela dit, je pense que ça a quand même vachement marché parce que
Alors c'est celle qui a le moins marché.
Ah ouais.
Ouais. C'est celle qui a mis le plus de temps à être consommée et en même temps. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'au bout d'un moment, ils ont dit aux gens c'est une bière un peu particulière, je vous fais goûter un tout petit fond. Et je trouve que ça a été trop bien aussi de leur part de jouer le jeu, de faire goûter, pour pas que les gens se retrouvent avec une pinte d'une bière qu'ils aiment pas, parce que les sours, c'est quand même particulier. Et quand tu connais pas du tout les bières, te retrouver avec une bière acidulée comme ça, donc c'était des vraies fraises et des vraies rhubarbes, mais en petite quantité. Donc on avait le goût du fruit. Quand même, on était sur l'acidité bien, sans exagération non plus. Je trouve que c'était quand même assez modéré. Mais on n'était pas sur un truc over sucré. Voilà, il fallait que ça rentre dans des coups.
Ouais, puis effectivement, la bière sour, les gens ne sont pas habitués. Donc c'est cool de le présenter comme ça, pour que les gens se disent « Ah, ça ne me plaît pas, mais c'est normal. » Plutôt que la personne derrière le bar ne leur dit rien, ils repartent en disant « Ah, il y a un problème, c'est de la merde, je la tège et je ne reprendrai plus jamais de Tipsy parce que vraisemblablement, il y a un problème. » Au moins, ça paraît que la personne au bar fait l'initiation en disant « Tiens, c'est un peu particulier, c'est acide, mais c'est normal, goûte, tu vas me dire si ça te plaît ou pas. »
Donc ouais, non, très très cool sur ces recettes-là, j'étais très content de leur choix. Faut dire qu'on s'est fait un rendez-vous, ils sont venus à la brasserie, on a fait des dégustations, on leur a filé des échantillons aussi pour qu'ils dégustent avec le reste de l'équipe.
Ça c'est cool.
Et donc ils ont pu tous ensemble un peu choisir les bières qu'ils voulaient. Et moi de toute façon, mon kiff c'est de faire des nouvelles recettes. Donc si on peut adapter, autant le faire et c'est cool, tu vois. Et puis eux, ils étaient hyper contents d'avoir une bière pour le festival, en plus avec des noms qui respectaient les thématiques quotidiennes, parce que donc chaque jour du festival, il y avait une thématique, et donc ça respectait un peu ces thématiques-là.
Ouais. Bah, le truc d'avoir mais c'est ce que tu fais depuis longtemps, hein, d'avoir des recettes un peu sur mesure, ça fait toujours plaisir aux gens, hein, de se dire
c'est ça.
Cette bière-là va exister que pour le festival, elle est éphémère, elle a un nom, après c'est terminé, quoi.
Clairement.
Donc là, on en arrive au fameux brassage dont on a parlé dans l'épisode précédent.
C'est ça, exactement. Donc, on a eu tout le détail des 50 hectos en 3 jours, plus la sour qu'on avait brassée une semaine avant. Donc, on est à un peu plus de 50 hectos brassés pour Château-Perché. On a eu pas mal de pertes quand même, avec les fonds perdus, les tuyaux, Mais en fait, à la base, on voulait même faire quelques canettes pour avoir une idée, pour avoir un objet, tu vois, qui reste après le festival. Malheureusement, ce projet n'a pas pu être réalisé. Pourtant, les étiquettes étaient prêtes à être imprimées, etc. Mais on n'avait pas assez de temps, c'était trop difficile à gérer. Et on n'était pas sûr d'avoir déjà les quantités nécessaires en fût. ça a été finalement assez limite avec toutes les purges qu'il y a eu à faire. C'était la première fois aussi que je purgeais autant. C'est-à-dire que je sortais des seaux de 20 litres de levure sur mes purges, tu vois.
Ah ouais, ça va faire bizarre ça.
Ah ouais, j'étais pas habitué. Enfin, 20 litres, il y a encore pas si longtemps, c'était un brassin entier sur le grain phaser, tu vois.
Ouais.
Donc là, sortir 20 litres de levure sur une purge
que tu jettes.
D'ailleurs, j'étais dégoûté de les jeter. Je me disais, mais il faut vraiment que je les réutilise. Donc ça, c'est encore un projet pour plus tard.
Réutiliser les levures ?
Ouais.
Ouais. Ça fait un moment qu'on en parle.
Ça fait un moment qu'on en parle, mais là, tu vois encore plus le gap quand tu jettes des centaines de litres de levure, quoi.
Ouais, au final.
Tout fermenteur confondu, il y avait plus de 100 litres de levure jetée. Et bon, bref, voilà, c'est comme ça. Mais un peu de stress sur la fermentation, parce qu'il y avait une partie des fermenteurs qui n'était pas reliée au groupe froid comme il fallait, où c'est du refroidissement broulalouse, genre du gros tuyau d'arrosage autour du fermenteur avec de l'isolant plaqué au-dessus, connecté à une pompe au groupe froid, etc. En plus de ça, j'ai vu les grosses limites parce que c'est le moment où il faisait bien chaud. Le groupe froid renvoyait de la chaleur pour refroidir l'eau qui était dans les 2000 litres de la cuve, qui renvoyait ça dans les tuyaux d'arrosage. Qui refroidissait la bière. Pour refroidir la bière, du coup, il fallait renvoyer plus de chaud via le groupe froid. Ça renvoyait du chaud dans la brasserie.
Ouais.
Donc au final, il faisait 42 dans la brasserie.
Dur.
Et t'avais le groupe froid qui tournait à mort pour refroidir un truc. Et plus il refroidissait, plus il produisait du chaud dans l'air ambiant, tu vois.
Ouais.
Donc c'était complètement stupide.
D'ailleurs, on va voir s'il n'y a pas un petit conduit à faire.
Ouais, depuis c'est fait. Petit conduit qui vient avec une vraie ventilation industrielle qui déplace 1500 m3 heure, je crois. Donc de quoi ventiler bien comme il faut toute la brasserie.
Que j'ai vu depuis.
Ah, yes. Et donc, voilà. Mais la fermentation s'est très bien passée. Le suivi de fermentation s'est bien passé. Très content de ce que ça a donné. On avait pris quand même une petite marge d'une semaine, qui n'est pas non plus énorme, sur à voir comment la fermentation se finissait, pour être sûr que...
Ouais.
Donc, voilà. On aurait pu conditionner une semaine plus tôt, mais on a attendu une semaine pour conditionner. Et il fallait tout faire en fût.
C'est quand même, cool ça, non ?
Gros défi, ouais. Mais gros défi quand même, beaucoup de fûts à faire. Malheureusement, on n'avait pas le parc de fûts. On s'est renseigné pour faire du fût réutilisable en location. Et on n'a pas eu la possibilité de passer par cette option. On voulait passer par notre fournisseur habituel Polykeg. Sauf que quand on leur a dit « Bon, c'est bon, ok, on vous commande X palettes de fûts », ils nous ont dit « Ah, on a un problème technique. on n'a plus de stock et on ne peut plus produire avant mi-juillet. »
Donc là, tu commences à te chier dessus
tu commences à vraiment te chier dessus. Et au final, on a réussi à passer par Dolium. Avant, on était chez Polykeg. Et donc, Dolium nous a livré nos 4 ou 5 palettes, de fûts. Nécessaire, du coup, à la mise en fût de toute cette bière.
Merci à eux.
Ouais, merci à eux. En plus, c'était un peu le bordel parce qu'on avait certains fermenteurs en ISO, d'autres qu'il fallait resucrer. Donc, un peu compliqué, mais franchement, on s'en est bien sorti. Le seul truc qui a un peu déconné, c'est au niveau du transport. On n'avait pas vraiment pensé à ça parce que c'était des volumes si importants que des volumes qu'on n'avait jamais faits. On avait prévu en fait un camion de 20 mètres cubes pour déplacer tous les fûts.
Ouais.
Ce qui en soi, 20 mètres cubes est possible, sauf que je savais pas qu'un 20 mètres cubes c'est limité à 900 kilos. Que j'avais plusieurs tonnes de bière à déplacer. Et donc on s'est retrouvé au dernier moment comme des débiles en mode ah, mais en fait le poids est beaucoup trop lourd. Et du coup, on a dû faire un transport qui n'a pas été. Prévu, donc on a pris un 44 tonnes juste pour déplacer 5 palettes.
Ouais, et ça, t'as pas réussi à le refacturer ?
Si, je l'ai refacturé. Ouais. Et ils ont été très cool de le prendre, ouais. Franchement.
Mais en faisant plusieurs allers-retours, c'est pas possible ?
En faisant plusieurs allers-retours, alors eux n'avaient pas les bénévoles suffisants parce qu'ils marchent beaucoup avec des bénévoles et donc ça prenait trop de temps de faire des allers-retours parce qu'on est quand même à une petite demi-heure de,
ouais,
de l'endroit, donc le temps de charger, décharger, ça faisait quand même donc une heure, plus d'une heure de taf par aller-retour. Et on va dire que une palette pesant environ une tonne, il fallait faire 5 heures de taf.
Ouais.
Ça commençait à être un peu trop. Alors que du coup, appeler un transporteur qui faisait le truc en one shot, ça a coûté un peu d'argent, mais c'était fait. Donc voilà, j'ai appris que ces volumes-là nécessitent un transport particulier.
Et ouais.
Moi, j'avais pas le permis non plus. Je l'aurais bien fait, mais j'avais pas le permis pour conduire.
Un 44 tonnes.
Non, même un 20 mètres cubes.
Comment ça? Un 20 mètres cubes, normalement, tu peux.
Non, parce que je crois
que c'est au-dessus de 16 mètres cubes.
C'est ça, 16 mètres cubes la limite.
Je sais pas exactement, mais moi donc surtout, j'ai le, tu sais, j'ai le permis en automatique.
Ah oui.
Ah, oui.
Ouais. 20 mètres cubes, je crois que normalement avec un permis de tu peux.
Je crois que c'est 16. Les gros là. Parce que
20 mètres cubes, c'est pas si énorme. Hein.
Et 20 mètres cubes, ça commence à être.
Il faut savoir que Pierre travaille chez Bergerat Monnayer, qui est le reseller officiel de Caterpillar.
Ça fait, mais il n'y a pas de camion. Donc,
il n'y a pas de camion, mais.
Pas de camion, mais il connaît les grosses machines. Quoi.
Il connaît les grosses machines.
À partir de 40 tonnes.
C'est un peu grâce à lui que je suis sponsor 4 et que vous pouvez me voir avec des casquettes 4, des chaussures 4, des chaussettes 4 et tout ce que vous voulez 4 dans les vidéos Tipsy. Mais bon, bref, tout ça pour dire que le transport a été une petite galère, mais on s'en est bien sorti et franchement, voilà, très oui. content.
Non, et donc, c'était la tranquillité d'esprit de passer par un professionnel voilà. où tu viens charger et après c'est terminé, quoi.
Ouais. Donc tout est arrivé à bon port. J'ai fait quand même une livraison en remorque avec la voiture de Didier que j'avais empruntée, la CHR et ouais. plus les remorques, qui était pour les bénévoles qui venaient pour l'installation. Parce qu'ils avaient soif. J'ai fourni deux tireuses aussi, donc une double bec et une simple bec pour les bénévoles. Et l'industriel qui a fourni le reste des tireuses pour mes bières également était très très cool de fournir les tireuses parce que ça a été un gros sujet aussi.
Ouais.
Et énorme surprise, puisque le lendemain matin du festival, donc moi je suis resté au festival, j'ai participé au festival de manière assez classique, on va dire.
Oui, t'es venu avec ta tente et
voilà,
puis
c'est ça.
On a fait le camping. Quoi.
Ouais, c'est ça. Mais en me mettant quand même, j'étais pas non plus en mode. J'étais un peu au taf et un peu en mode kiff. Genre, j'avais ouais. pas grand chose à faire, mais j'étais quand même assez éveillé et prêt à prendre la voiture à n'importe quel moment.
Ouais, c'est ça.
Genre,
ce qui est quand même une bonne grosse contrainte.
Dans un festoche.
Bah, moi,
surtout en jeune permis où t'as le droit à zéro d'alcool.
Ouais, c'est ça.
C'est un peu compliqué.
S'agissait de pas déconner. Moi, effectivement, j'aurais pas pris la voiture pendant le festival. Je pensais à aucun moment.
Non. Bah, j'ai pas bu du festival, hein, mais disons que je me suis mis des grosses limites et j'avais pris. C'est cool, ils distribuaient des étiquettes. Je pouvais tester pour voir quand je pouvais reprendre la voiture
ouais.
et tout ça.
Ouais.
Mais j'étais pas complètement en mode chill, tout va bien quoi. Mais donc grosse surprise, le lendemain matin, ils viennent me voir et ils me disent qu'il y a plus de tipsy. Le lendemain matin du premier soir,
panique
du
coup, à bord,
du jeudi soir.
C'est ça. Bonsoir.
Donc,
on a...
En plus au début ils m'appellent, ils me disent oui machin, ça coupait tout le temps parce qu'il y avait pas de réseau et ils me disent oui viens au bureau de prod. Donc je vais au bureau de prod, j'avais l'impression d'être
tout petit peu là,
puni, tu sais. Ouais. Genre, viens au bureau du directeur. Genre, je traverse tout le festival, il y avait la grosse montée là pour aller jusqu'à là-bas et tout. J'étais là en mode, merde, je vais me faire engueuler et tout. Je sais pas, il y a un problème, les bières font que mousser. Je sais pas, tu vois, je m'attendais à un problème. J'arrive et ils me disent, bon, écoute, ça a trop bien marché, ils ont tout bu. Je sais quoi.
Bon, y a
plus de bière. Ils ont bu 10 000 pintes en une soirée, quoi. En comptant que mes pintes, hein, parce que du coup, il y avait la bière industrielle qui était donc l'IPA et la blonde
ouais.
en plus de mes bières. Donc, ils ont bu plus de 10 000 pintes, largement plus de 10 000 pintes en une soirée, mais assez impressionnant. Donc, ils m'ont demandé pour le soir même de relivrer ce que je pouvais et en stock, il me restait quelques canettes donc de gelato myrtille. Une sour et une double IPA à coup de pression.
Ouais.
Et c'était assez ouf de trouver bah, du coup une DIPA et une sour en festoche, quoi, en canette. Et en plus, le lendemain, du coup, il balançait ça, mais dans des quantités. Enfin, toutes les. Il y avait des sacs poubelles qui sortaient. Je me souviens du gars qui sortait
ouais,
des sacs
poubelles
avec toutes les canettes. En fait, ils ouvraient les canettes. Ils voulaient servir des pintes avec des 33. Et je me souviens genre, pour que ça sorte plus vite de la canette, ils pressaient les canettes comme des citrons pour que vraiment, genre, ils renversaient la canette, ils la pressaient pour que ça sorte plus vite. Ouais.
Donc, non, j'aurais pas voulu être à la place des bénévoles, ça avait l'air intense quand même.
Ça avait l'air intense, ouais. Il y avait des grosses queues pour les bars. Ouais. Mais
c'était très drôle, c'est que du coup, t'as fait le réappro au milieu du festival, c'est-à-dire le deuxième soir, je crois.
Ouais, c'est ça.
Début de la soirée, mais les festivités étaient quand même bien lancées. Je pense qu'il était au moins 22h, 21h, 22h.
Ouais, même un peu plus, hein, 23h peut-être.
Ouais. Et du coup, je me suis ramené pour te filer la main, mais sauf que moi, j'étais au milieu de mon festival en train de faire la teuf. Et là, d'un coup, c'est genre, bon, allez, vas-y, on va décharger les cartons au milieu des gens qui font la teuf. Moi, je me rappelle, j'ouvrais le passage, on passait au milieu d'une scène.
Il faut savoir que la voiture, du coup, devait amener la bière. Donc, déjà, ils m'ont filé un pass pour que je me déplace en voiture dans le festival. C'était quand même assez stylé.
C'était marrant.
Et y avait quand même une scène à traverser. Donc là, je pouvais pas passer avec la voiture au milieu de la scène. Enfin, ça aurait été n'importe quoi.
Il fallait fendre la foule.
Fallait fendre la foule. Du coup, on déchargeait au début de la scène et on passait à travers la foule.
Avec un diable.
Avec un diable, et tu m'ouvrais le chemin. Et les gens étaient vraiment très gentils.
Très cool.
Et à la fin, ils applaudissaient même au passage.
Ouais, ils étaient contents, on leur disait attention, provision de bière.
Non, mais franchement, trop cool.
Non, mais c'était assez rigolo de se retrouver là à décharger la voiture en bas alors que c'était la teuf partout.
Ouais. Donc, gros succès, je trouve, pour ce festoche.
Et c'est vrai que tu m'avais dit, on n'a pas parlé dans la première partie, mais quand tu avais commencé à démarcher le château, tu leur avais donné cet argument-là de « si jamais il y a une galère, je suis juste à côté, ouais. Je peux vous réapprovisionner, il n'y a pas de problème. »
Bon, il faut savoir qu'ils ont dû se réapprovisionner aussi de bières industrielles au final, parce qu'ils avaient pas bien... Enfin, en tout cas, les festivaliers avaient très très soif, on va dire.
Mais on pouvait pas s'attendre à ce que ça aille si vite.
Ouais.
Et finalement, si, premier soir, réapprovisionnement, quoi.
Ouais. Et du coup, troisième et quatrième soir, rupture de stock de Tipsy. Donc je n'ai fait que deux jours sur le festival.
il devait rester un peu de gelato ou je sais plus.
Non, gelato c'est parti vite. La Dipa elle est partie en 2 heures, ce qui est assez ouf. La gelato elle est partie le deuxième soir, du coup elle est partie one shot. Par contre ils avaient retrouvé des fûts de blanche qu'on pouvait retrouver quand même dans certains bars, pas tous, mais il y avait quelques bars qui avaient encore des blanches.
On avait mis un peu de côté.
Voilà. Mais par contre, ils ont fait affréter 44 tonnes de bière Indus pendant le festival.
Incroyable. Ouais. Il y a un truc que je comprends pas, c'est que d'une année sur l'autre, parce qu'ils se sont basés sur les chiffres de l'année précédente pour essayer d'estimer les besoins. Mais ouais. Ils n'avaient pas plus soif. Ils avaient 3 fois plus soif.
Ouais.
C'est-à-dire qu'ils ont fini en une soirée, le finir en 3. Quoi.
C'est ça. Donc voilà un peu le festival, très content du truc. Peut-être j'aurais bien aimé avoir plus de stock, mais bon, c'est imprévisible. Et puis même un peu plus de stock pour mes clients classiques.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire
que je me suis retrouvé au mois de juillet avec peu de bière pour tout le monde.
Ouais.
Un peu dur, obligé de refuser des ventes.
Oui, à la fin du festival, t'avais plus rien.
J'avais quasiment plus rien. J'avais gardé quand même les classiques. Ils prenaient pas de bouteilles au festival, donc ça, c'est cool. J'avais encore toutes mes bouteilles.
Ouais.
Par contre, j'avais presque plus de canettes du coup j'ai été obligé de refuser pas mal de ventes en mois de juillet, et du coup j'ai un peu délaissé tout mon circuit de vente de distribution, plus surtout sur le local, le Morvan qui se réveille un peu en juillet-août où là j'étais pas très présent quoi. Donc ça m'a fait un peu de peine voilà. J'aurais dû... Enfin, c'était compliqué. J'aurais pu faire mieux, mais...
Non, vous veniez de recevoir la salle de brassage, vous pouviez pas avoir plus de stock que ça.
C'est ça.
Bon, quand même une belle opération.
Ouais, je suis très content.
Ah, tout ça, en plus, brassé en 3 jours, quoi.
Ouais. Ouais, un peu plus, parce qu'il y avait la Sour qui était faite une semaine avant.
Oui,
mais,
c'est vrai.
Et qui a pris 3 jours aussi à faire, rien que la Sour, pour l'acidification. Mais très, très cool. Donc, voilà. Ce petit festoche.
Ouais, plutôt sympathique. Hein. Peut-être qu'on vous en reparlera l'année prochaine. Hein,
à voir où ils seront.
On croise les doigts.
Ouais.
Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode. Je pense qu'on a tout dit.
Ouais.
On se donne rendez-vous dans 2 semaines, a priori. 2 semaines. De quoi on va parler?
Du premier Brassens après tout ça, qui a été un peu le Brassens de l'enfer que j'ai fait solo. donc la PBC de l'enfer.
La PBC de l'enfer, bon, décidément. Cette salle de brassage, alors, a vécu beaucoup de trucs. Merci beaucoup. Bah, continuez à nous écouter, ça nous fait très plaisir. N'hésitez pas à vous abonner sur Instagram, à nous suivre sur les réseaux.
Bien sûr, mettez encore des bons avis positifs, ça c'est trop cool.
Ça fait toujours plaisir. Des 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. Puis à bientôt.
À bientôt. Thank you.